Bonjour tout le monde. Erwan, tu as le droit de prendre ton micro.
Bonjour.
Bonjour.
Très rapidement, déjà merci à tous d'être venus, nombreux quand même. Les antipastilles, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est des rencontres qu'on organise avec des auteurs pour un peu mieux comprendre leur, des auteurs de bande dessinée, pour comprendre leur parcours, leur méthode de travail, pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Vous verrez qu'on a une approche un petit peu chronologique, qu'on reprend un peu à chaque fois d'une session sur l'autre, puisque c'est la 19e édition qu'on fait aujourd'hui avec Erwan Surcouf. Et quand je dis « on », c'est l'association Maison Fumetti, qui est installée à Nantes, à la Manufacture des Tabacs, depuis un an. Et donc c'est une rencontre qu'on fait tout au long de l'année, dans différents lieux, et notamment à Maison Fumetti. Et aujourd'hui, on est content d'être accueilli par les Utopiales pour cette rencontre, et on est content de t'accueillir, Erwan, pour cette 19e édition.
Merci.
Je pense qu'il faut mettre le micro plus près.
Ah ouais, voilà. 1, 2, 1, 2. Test, c'est bon.
Okay. Est-ce que tout le monde est bien installé? Vous nous entendez bien? Tout va bien? Oui, vous êtes super loin. On a l'impression qu'on pourrait se mettre en plein milieu.
Bizarre,
ouais. C'est très étrange. Si ça va tout le monde, on va commencer quand même.
C'est ça. Prêt? Alors.
Donc, pour commencer, on commence donc avec une partie qu'on a intitulée Mise en bouche, et qui avance toute seule. On découvre que Erwan, tu as dessiné très très tôt, à moins que tu sois né en 1950, tu as commencé très jeune. Alors là, tu nous as fourni des beaux dessins avec des appréciations en plus en dessous. Et
ça c'est les premiers, c'est le premier dessin figuratif que j'ai fait. Voilà, donc mes parents étaient super fiers, quoi. Donc j'avais 3 ans là pour celui de gauche. Donc ça représente une baleine qui a mangé une voiture. Elle rit et elle pleure. Voilà. Ça se voit. Et alors celle de droite, c'est une peinture. C'est la première peinture que j'ai faite à l'école, donc en maternelle, parce que je voulais pas peindre en fait. Je voulais pas faire ce qu'on me disait de faire, quoi.
Donc c'est marqué en bas d'ailleurs, je crois. C'est marqué Erwan s'est enfin mis à la peinture, je crois.
Voilà, c'est marqué. Il a enfin accepté de faire de la peinture. Bravo. Parce que cette maîtresse était très inquiète que je peigne pas chez elle, quoi. Et elle voulait que mes parents m'envoient chez un psy, en fait, parce que c'était pas normal, quoi. Et c'est juste que je voulais pas dessiner à l'école, peindre à l'école, et voilà. Voilà, c'est parce que j'aimais pas faire ce qu'on me disait de faire, donc j'ai mis vraiment du temps à m'y mettre. Et puis voilà, et donc j'ai fait cette putain de peinture, et à partir du moment où je l'ai faite, on m'a laissé tranquille, quoi. Et voilà.
C'est ta dernière peinture aussi?
Ah ouais, je pense que c'est ma dernière avant de nombreuses années, quoi. Ouais. J'ai vraiment jamais supporté peindre. Alors ça m'est venu ensuite un peu plus tard, quoi, au moment de l'école d'art, quoi. Mais sinon avant, non, c'était vraiment moi. Je voulais que dessiner, quoi. Donc voilà, avec un feutre, enfin avec un pic simple, quoi. Voilà.
Mais d'ailleurs, tu nous as envoyé beaucoup de dessins. On a dû faire un tri, mais on va en montrer quelques autres. Alors je sais pas si vous voyez très bien. On est désolé, l'écran n'est pas immense, mais bon. Vous pouvez vous approcher chacun à votre tour si vous voulez. Et notamment, moi j'étais étonné parce qu'il y a des choses, comme tu dis, très très figuratives et très jeunes en fait.
Ouais.
Des dessins que tu as fait quand tu avais. T'avais quel âge là t'avais...
Ben, celui de droite, c'était en grande section, donc je ne sais pas quel âge on a, 5 ans quoi. Mais en fait, j'étais vraiment nourri de tous les livres et toutes les bandes dessinées que mes parents. Acheté, quoi. Et donc je baignais dans ce flot, quoi, de BD, de... Alors, ça, je sais pas, ça doit être inspiré par... je sais pas, en fait. Je crois qu'après, j'avais mis des livres...
Ouais.
Mais donc, voilà. Et donc, ça se dessin, apparemment, je devais pas le faire quand je l'ai fait. Je devais faire, j'aurais dû faire, je sais pas quel exercice. Et bref, la maîtresse me l'a pris en fait. Et elle me l'a rendu que, je sais pas, 30 ans plus tard, quand je l'ai revu dans un festival. Ah tiens, en fait, j'ai ce vieux dessin de toi. Voilà. Donc elle l'avait gardé pendant 30 ans. Ouais. Et voilà. Oui.
Elle n'avait pas essayé de le vendre sur eBay.
Non, visiblement non.
Alors, moi, l'autre chose qui m'a étonné, c'est qu'il y a presque tous les enfants dessinent, mais je trouve qu'il y a une étape entre faire du dessin figuratif et faire de la bande dessinée. Et on voit que tu fais très vite des bandes dessinées assez. D'ailleurs, tu parles de bande dessinée dans tes bandes dessinées, parce que là, c'est quelqu'un qui veut faire un concours de bande dessinée. Bah, et c'est assez construit déjà. Enfin, on va voir après, il y a une bande dessinée qui fait déjà plusieurs pages. Enfin, c'est.
Bah, en fait, il m'est apparu très clair, très vite que. Bah, que c'était plus facile pour moi de parler avec les gens, avec le monde extérieur, par le dessin, que de parler comme ça. Donc très vite, bah, je me suis aperçu que le dessin était mon moyen de communication, pas le seul, mais le plus facile pour moi, quoi, le plus simple. Quoi, voilà.
Et à cet âge-là, est-ce que tu te... T'imaginais déjà faire ça comme métier plus tard?
Je crois que c'est un peu tôt, je crois, pour se projeter dans un métier. Mais par contre, vu tous les livres dans lesquels que je lisais ou que je voyais, ça me semblait normal que des gens fassent ce métier de dessinateur, auteur. Je savais que des gens faisaient ça, quoi. Des gens faisaient des livres. Donc ça me semblait normal, quoi.
On va peut-être passer rapidement pour passer à tes dessins d'adulte.
Et donc juste cette BD, donc c'est le premier concours que j'ai eu, enfin que j'ai gagné, voire même le seul en fait. Et s'il fallait faire une bande dessinée, je sais plus sur un thème. Bref, moi j'ai pris le thème très très banal du concours de BD en lui-même en fait. Voilà. Et du coup, comme j'avais fait une épreuve pour les plus grands, du coup j'ai reçu des prix qui auraient dû normalement aller à des plus grands, quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier Gottlieb en fait. Rubik-Rabach 5. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait entrer dans la bande dessinée de grand en fait.
Okay. Oui, donc très jeune, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai été assez vite touché par des lectures qui étaient destinées à plus grand que moi, quoi.
Et alors après, on a remis quelques autres dessins que tu as fait enfant. Et alors, celui-là, je sais pas si on voit bien. Moi, je l'ai trouvé assez dingue parce que c'est un vaisseau entier avec il y a toute la carte en fait qui s'appelle le Surcouf. Et tu avais réfléchi à chaque. Et t'avais réfléchi vraiment à l'utilisation de tous les espaces. Enfin, c'est un vrai vaisseau, quoi. C'est pas une forme avec des bonhommes dedans qui se baladent, quoi. C'est.
Et en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Et je l'ai retrouvé chez mes parents quand j'ai cherché des choses, quoi. Et voilà. Et je me suis dit, c'est dément parce que ça préfigure un petit peu le vaisseau qu'on va voir ensuite dans Pouvoir Point, quoi. C'est vraiment l'âge où, enfin, ça, je pense que je l'ai fait. Je sais pas, je devais avoir 10-11 ans, quoi. C'est vraiment l'âge où on a envie de se construire son petit monde en fait, quoi. Voilà, et de, bon, je l'ai appelé par mon nom, bon, voilà. Mais donc voilà, ça préfigure vraiment le vaisseau qui va venir après. Sauf que pour Pouvoir Point, je me suis imposé de pas faire de plan de vaisseau, quoi. C'est vraiment le vaisseau de ce livre là, c'est vraiment un espace mental en fait. Je voulais pas qu'il y ait la cabine de pilotage là, les chambres ici, voilà, c'est vraiment un vaisseau abstrait en fait, quoi.
Et juste sur ce dessin, j'avais une question, c'est toi qui as écrit ?
Ouais.
Parce que ce qui m'épate dans ce dessin, c'est que, enfin, plutôt dans les légendes, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement extrêmement précises. Il y a des réacteurs, mais il y a aussi des réacteurs petite vitesse. Il y a des moments de charge. Enfin, je trouve le vocabulaire assez technique pour un enfant d'une dizaine d'années.
Ouais, je pense que c'était vers 11 ans. Je pense que c'est l'âge où j'ai commencé à faire du jeu de rôle, quoi. Et du coup, quand tu fais jeu de rôle, tu baignes dans un imaginaire, voilà. il y a des termes qui reviennent souvent, voilà, tu baignes dans ça, quoi. Voilà, donc moi j'avais vraiment à cœur d'être précis, quoi, dans ce vaisseau, quoi.
Voilà. Et alors, une dernière image d'enfance, c'était donc cette bande dessinée. Alors c'est pareil, on a voulu la montrer, je me doute qu'elle n'est pas très lisible de là où vous êtes, mais encore une fois, moi je trouve ça assez étonnant de voir quelque chose de très construit, quoi, avec un enfin, on sent que t'as réfléchi au découpage, au cadrage et tout. Enfin, c'est une vraie bande dessinée. Et encore une fois, je sais pas si c'est si fréquent que ça chez les...
Ça c'est le lycée, ça c'était en, je sais pas, en seconde ou en première. Et c'était le, enfin, c'est la première BD que j'ai faite paraître dans une publication qui était tirée au moins à 100 exemplaires, quoi.
C'est quoi, c'est un fanzine que tu avais fait toi-même, ou c'est un fanzine que tu faisais toi, ou tu avais participé à...
C'était le fanzine du lycée, quoi. Et il m'avait demandé, voilà, de faire des planches, quoi. Et c'est vraiment là quand le fanzine est sorti et que j'ai vu des gens le lire dans la cour et tout ça, que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, en fait, quoi. Je voulais faire des choses que les gens lisent. Et vraiment là, j'ai vécu. Il y a un mot japonais, c'est Satori. C'est un peu, ça veut dire l'épiphanie, quoi. Là, ma vie est faite que de trucs comme ça. Moi, je suis assez passif, en fait, quoi. Et il faut vraiment que j'ai des choses qui m'arrivent et qui me fassent me rendre compte que, hey, mais c'est cette voie-là que je veux suivre, ou, voilà. Et donc cette voie-là, bah, là, donc je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, quoi. C'est faire des trucs qui font rire les gens et que les gens lisent, voilà.
Et graphiquement, t'as l'impression de retrouver des choses quand tu revois des planches comme ça, ou est-ce que t'as l'impression que c'est une autre personne qui a fait ça complètement, quoi?
Oh oui, non, en fait à l'époque je lisais beaucoup de Margerin, aussi Gottlieb, du coup voilà, j'aimais bien faire des petits traits partout, et puis voilà, j'aimais bien les thèmes qui portaient sur le réel, voilà, j'aimais bien parler des gens, donc là cette BD parle des pions, donc les pions du lycée, quoi. Bah, donc c'est ça que j'aimais chez des auteurs, bah, comme donc Margerin, quoi. C'est des gens, bah, qui parlent de ce qui se passe autour d'eux, de la rue, de leur vie à eux, quoi. Voilà. Mais sinon, graphiquement, je pense que je vais vers plus de simplicité, quoi. Là il y a beaucoup trop de traits pour moi, quoi.
Et donc, on finit cette première partie avec plusieurs influences que tu nous as indiquées.
Ouais, bah voilà, bah ça
les... passe très vite. Alors, il y en a beaucoup, il ne s'agit pas de toutes les décrire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des choses très, très classiques. Quand on voit Gottlieb ou Fred ou Franquin, je ne sais pas si on a fait un seul antipastille sans que ces auteurs soient revenus dans les références. Ouais. Et par contre, il y a des choses beaucoup plus pointues.
Je ne sais pas, mais Samivelle ou Max ou Moritz. Ça c'est une vieille BD allemande du siècle dernier, et voilà, et qui est très morbide. On suit l'histoire de ces deux garnements, quoi, qui font des bêtises et tout ça, et bien sûr c'est toujours très très sordide, et à la fin eux-mêmes sont pris au piège de leur propre farce et meurent, en fait ils meurent je sais pas si vous en avez lu, vous, mais il tombe dans la meule d'un gros moulin, quoi, et ils se font broyer, quoi, et ils servent de graines ensuite pour les poules, quoi, voilà. Okay. Donc c'est la morale allemande du siècle dernier, quoi. Et donc voilà, et en fait, en faisant cette sélection, je me rends compte que ce qui m'attire à chaque fois, c'est... Alors c'est souvent des BD drôles, ouais, c'est souvent drôle, et à chaque fois il y a un double sens, une double lecture, il y a un double sens sombre, en fait, il y a un dark side à chaque fois, quoi. Donc les enfants qui meurent dans Max, et voilà, les Schtroumpfs noirs, il y a toujours un côté sombre, interdit, en fait, et ça se termine souvent mal. Samivel, donc oui, donc celui du bas là. C'est un dessinateur du début du siècle. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus inspiré dans sa façon de, dans sa ligne en fait, dans un trait très très clair, très simple. Et en plus, il dessine toujours des histoires qui se passent dans la neige. Donc c'est des images toujours très très contrastées. Il y a juste un trait pour le fond. Il y a des traits pour les traces de pas dans, voilà. C'est vraiment très beau, quoi. Et je sais pas si c'est très connu ou pas. Voilà. Et puis donc voilà. Et Franquin, ouais, qui est un de mes auteurs préférés, quoi. Voilà, enfin, on va pas parler de chaque.
Ben non, c'est ça, parce qu'en plus, voilà, il y avait une deuxième page, il n'y en a pas de troisième, je vous rassure, mais c'était. Mais voilà. Après, voilà, donc ça montre quand même tu as eu beaucoup, beaucoup de lectures, que tu as cherché toi-même, ou tu avais un environnement déjà familial, scolaire, non, où il y avait beaucoup de.
Et souvent, les choses qui m'arrivent, en fait, c'est soit des BD que mes parents achetaient, Margerin ou Mas aussi. Mas, c'est un de mes auteurs aussi. C'est un des auteurs qui m'a le plus marqué, quoi. H. Barrett aussi. Enfin bref, voilà, quoi. Alors, on pourrait parler sur chacun longtemps, mais voilà, en gros, c'est dans l'ordre chronologique, quoi. Donc là, ça s'arrête à peu près. Je pense que les Charlie Mensuels, j'ai découvert ça, oui, à la fin du lycée, je pense. En fait, mais mon père avait deux frères. Et à eux trois, ils achetaient en fait tout ce qui sortait dans les années 60, 70, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert en fait toute la pop culture voilà, des années 70. Donc tous les Charlie Mensuel avec tous les auteurs qu'on trouve dedans, quoi. Il y en a plein. Il y a, je sais pas, il y avait Pichard, voilà, Crumb aussi. Voilà. Voilà.
Et on va quand même passer à ton travail personnel à toi, quand même, et un peu plus actuel, puisqu'on est déjà quasiment à la moitié de cette rencontre. Donc, ce qu'on appelle la dégustation, où. Donc, en fait, t'es rapidement. T'as suivi un cursus après le bac assez directement dans cette filière-là. T'as fait des études d'art pour, dans l'idée vraiment d'être auteur de bande dessinée. Ou c'était encore un peu flou, t'étais.
Ouais, bah, donc moi j'ai fait les Arts Déco de Strasbourg. Donc c'était pas forcément pour faire de la bande dessinée, c'était plus pour faire de l'illustration en fait. Voilà. Et pendant plusieurs années après, j'ai vraiment fait que de l'illustration et j'avais un peu laissé tomber le côté BD, quoi. Et c'est vraiment quelques années après qu'un ancien prof à moi, des Arts Déco, m'a proposé un projet BD. Donc moi, je suis sorti des Arts Déco en 2000. Et donc la première BD que j'ai sortie, donc, qui est Herminio, qui n'est pas là.
Il n'est pas être ici.
Donc c'est sorti en 2006, qu'on a mis ici. Celle en haut à gauche. Donc c'était avec mon ancien, avec un prof, quoi, des Arts Déco. Et jusqu'à là, en fait, j'avais complètement laissé tomber tout ce qui y était BD, en fait. J'étais vraiment pas parti sur l'illustration, sur les couves de livres, où je dessine aussi pour la presse, quoi, pas mal. Voilà.
Et du coup, en sachant que ce travail d'illustration, à ma connaissance, c'était pas toi qui écrivais les textes. Ce que tu faisais à l'époque ou avant? Ou avant même Herminio?
Non, ça a toujours été des couvertures de romans, des illustrations pour la presse. Donc j'illustrais toujours le texte d'autres personnes, quoi.
Ouais. Voilà. Oui, du coup, l'auteur a mis du temps aussi à s'affirmer à éclore au final.
Ah, l'auteur, tu parles de moi en fait.
Oui. Enfin, même si être uniquement illustrateur, c'est un travail d'auteur aussi, mais le côté, ce qu'on voyait dans les dessins d'enfance, ton envie de raconter des histoires, ouais, c'est quelque chose qui est revenu un peu, que tu as laissé de côté un petit moment.
Ouais, c'était complètement parti en fait. Et c'est pendant que je dessinais Herminio, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très très frustré en fait. Déjà parce que faire un livre, c'est très long. Je pense que Herminio, j'ai dû mettre un an et demi, presque deux. Et pendant tout ce temps, bah, tu dessines chez toi seul, tu vois personne, personne ne voit ce que tu fais. Du coup, j'ai progressivement été de plus en plus frustré, quoi. Et en fait, j'ai ouvert un blog en 2005. Et là où j'ai mis sur ce blog, j'ai mis tous les dessins que je faisais pour moi, en fait, quoi. Donc tous les trucs, des trucs drôles ou pas drôles, ou des croquis. Et je pense que c'est ce passage sur le blog qui a vraiment décoincé un truc chez moi, quoi. Et où je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je sais que je peux dire aussi des trucs à moi, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je me suis remis, en fait, à la bande dessinée, quoi. Après l'avoir un peu laissé tomber. Voilà.
Mais tu as quand même continué beaucoup de collaborations, parce que là on a regroupé, ouais, quelques titres que tu as fait avec des scénaristes. On va s'attarder un petit peu après sur certains d'entre eux.
Ça, c'est que des BD avec des scénaristes. Donc Le Chant du Pluvier, c'est avec les mêmes scénaristes que Herminio. Été, ça s'est sorti là, il y a pas longtemps. C'est une BD qui a d'abord été sur Instagram et cet été, et qui est sortie en livre là en septembre. Donc là, c'est pareil, c'était avec deux scénaristes, en fait. Et Mars, donc c'est scénarisé par Florence Porcel. Je sais pas si elle est là. Ah bah voilà. Voilà, et donc Mars, c'est sorti en mars. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est des BD que je fais. Enfin, c'est des scénaristes qui viennent me voir et voilà, et on travaille ensemble sur un livre. Voilà, ça, pour cela, c'est pas venu de moi. Voilà.
Et tu as eu aussi beaucoup de collaborations dans des collectifs.
Ouais, voilà,
c'est ce qu'on avait mis. Alors, on est passé très très vite tout à l'heure, mais il y avait ces différents titres, et encore, je les ai pas tous mis.
Ben voilà. Boule de neige, c'était une histoire que j'avais faite pour les 24 heures de la bande dessinée. C'était une histoire qui s'appelle Planète Fruit, et c'était déjà un peu de la science-fiction un peu marrante, quoi. En fait, on suit deux astronautes dans un vaisseau et il se passe des choses bizarres. Et en fait, il fallait faire 24 planches en 24 heures, quoi. Voilà. Et donc ils ont rassemblé plusieurs histoires dans ce livre-là, quoi. Chikou, ça c'est moi qui me suis. C'était un projet qui existait déjà depuis quelques années, et en fait ils m'ont demandé de participer, en fait, à cette bande. Et en fait c'était un blog, donc c'était en 2006. Et on racontait chacun les histoires d'un personnage qui était notre personnage, mais sous son nom à lui. On ne signait pas sous nos propres noms, quoi. Voilà, et le livre est sorti ensuite avec les noms des personnages et pas nos noms à nous, quoi. Donc il y avait vraiment ce plaisir de travailler un peu dans l'ombre, quoi, sans se montrer soi, quoi. On parlait vraiment de la vie de personnages, quoi. Et c'était eux qui faisaient leurs propres histoires.
Et toutes ces collaborations avec des scénaristes, avec d'autres auteurs, ça s'est fait comment? Ça s'est fait, c'est des hasards comme ça, des rencontres, ou on est venu te chercher pour ton travail parce que tu montrais sur ton blog? Ça s'est arrivé comment?
Ben, ça dépend. Tu parles pour lesquels? Pour
d'une manière générale, est-ce que toi t'as été, est-ce que t'as eu l'impression de beaucoup démarcher des gens, des éditeurs, des auteurs, des scénaristes, ou est-ce que ça s'est fait comme ça un peu au fur et à mesure, des rencontres?
Ouais, j'ai beaucoup démarché pour l'illustration. J'ai été voir des la presse avec mon book sous le bras, quoi. Ensuite, pour la BD, c'est moins ça, c'est plutôt des rencontres, en fait. Herminio, c'était mon ancien professeur. Mars, c'était Boulet qui nous a présenté avec Florence. En fait, Boulet, on était aux Arts Déco ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, en fait, l'école, toutes les écoles, pas forcément celles d'art, mais les écoles, le c'est très important dans le sens où ça te crée un groupe, en fait. Ça te crée des potes, des gens que tu vas ensuite suivre, plusieurs années ensuite, quoi. Et du coup, là, c'est vraiment des gens que j'ai croisés, et par contre, les livres comme ça collectifs, c'est plutôt Chikou, donc c'est eux qui m'ont demandé de participer. Boule de neige, c'était les 24 heures, donc c'était une espèce de grand concours géant. Hein,
ah oui, voilà. Micro.
Et Axolot, ça c'était une histoire de zombies qui dansent. Ça c'était dans. Ça c'est pareil, c'est Delcourt qui m'a demandé de participer à cet ouvrage commun, quoi. Et les autres gens aussi, c'était Thomas Caden. Donc, c'est souvent des gens qui viennent me proposer de faire des choses. Ouais.
Mais sans forcément s'attarder hyper longtemps là-dessus, ce que je trouve intéressant aussi dans ce parcours, c'est qui est sans doute révélateur de l'évolution, d'une forme d'évolution de la bande dessinée, c'est à quel point tu t'es construit par Internet, par les blogs, etc. Ton blog perso. Le Chikou, les autres gens aussi qui étaient publiés en numérique. Et j'ai l'impression que ça raconte aussi pas mal de choses sur l'évolution de la bande dessinée en général, le fait que les auteurs des générations précédentes commençaient dans des revues de Pilote à Fulgacial à Metal Hurlant, etc. Et que l'espace de liberté, de création, d'expérimentation... Au début des années 2000, c'était sur Internet qu'il se trouvait. Ouais. Et du coup, c'est aussi comme ça. Tu parlais de famille, de groupe. L'école est importante aussi, mais je suppose que c'est cette visibilité-là. Il y a aussi eu des rencontres qui sont faites, des choses qui sont passées à ce moment-là.
Ouais. Je pense que les blogs ont vraiment pris la place qui manquait, la place vide qui était prise avant par la presse, en fait, quoi. Par tous les la presse à suivre la presse elle est vraiment elle a commencé à disparaître, quoi, dans les années 2000, et c'est assez l'époque que les blogs émergent, quoi. Et c'est normal, je trouve, pour un auteur d'investir ça, parce que un livre ça prend du temps, en fait. Et alors que le blog, tu dessines, tu postes, les gens le voient, quoi. Du coup, il y a un retour beaucoup plus immédiat et qui fait du bien, en fait, lorsque tu es seul sur ton livre, quoi, qui te prend 10 mois Donc, alors il y a ça, il y a aussi les fanzines aussi qui peuvent servir aussi de passerelle, quoi. Moi, je suis arrivé. J'ai fini l'école en 2000, et les blogs ont. Enfin, c'est l'époque à laquelle les blogs ont vraiment démarré, quoi. Ouais. Donc ça coïncidait bien, quoi.
Alors ensuite, on va faire deux focus sur deux livres à toi. Deux livres qui t'ont amené ici aux Utopiales. Il y a Mars Horizon et puis il y a Pouvoir Point. On a décidé de parler un peu ces deux-là parce que. Alors ils font partie de tes ouvrages récents, c'est deux livres qu'on trouve un petit peu cousins aussi, même graphiquement, même
par le thème,
même sur la forme. Je trouve que, alors il y en a un qui est en souple, un en cartonné, mais si ça s'est chipoté, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu, on sent qu'il y a vraiment deux trucs un peu assez proches dans la présentation. Il y a des gens qui flottent et des étoiles en losange dans le ciel noir, donc on disait que c'était exactement la même chose.
Je me suis autocopié, en fait. Ouais.
Non, mais on trouvait ça assez intéressant. Peut-être que tu nous en parles un peu plus. Alors Mars Horizon, et puis c'est vrai que nous, Pouvoir Point, ça nous intéresse parce que c'est un peu particulier dans ce parcours, parce qu'on parle beaucoup de collaboration depuis tout à l'heure, et Pouvoir Point, c'est ton seul ouvrage complet, personnel, 100% personnel, quoi.
Donc donc Mars, c'est vraiment c'est intéressant parce que. Donc ça, c'est la manière dont je procède quand je travaille avec des scénaristes. Donc typiquement, le scénariste ou la scénariste m'envoie son texte et moi, je lui propose un premier découpage très simple. Donc là, j'ai mis 4 pages sur une feuille Et la page de droite, là, finalisée, c'est celle de...
C'est celle en bas à gauche.
Donc voilà, quand on travaille à plusieurs, il y a vraiment un jeu comme ça, de va et vient, quoi. Moi, je propose ça, je lui montre, elle me propose des... elle me propose de changer des textes ou elle me propose que tel personnage vienne plus tard. Et donc, il y a vraiment comme ça des allers-retours, quoi. Donc, c'est ça qui est assez passionnant dans le fait de travailler à deux ou trois. C'est le fait de sortir de sa bulle aussi, quoi. Voilà, de faire des choses que tu ferais pas toi-même. Parce que, autant pour l'autre, je... Enfin, moi, j'ai une approche de la science-fiction très simple, en fait. Moi, j'aime bien faire des vaisseaux et des véhicules qui ressemblent à des cubes ou à des boules, quoi. Et là, pour Mars, il a fallu que je me force à faire des vrais véhicules avec des roues, des tubes partout, voilà. Donc, ça me forçait vraiment à sortir de ma zone, quoi, de confort, quoi.
Oui, parce que sur cet ouvrage, il y a quand même une volonté de faire.
Le plus crédible possible.
Voilà, c'est même assez didactique dans le ton, ça explique bien les choses pour que ça soit le plus crédible possible. Enfin, voilà, ouais. Donc, tu as été jusqu'à faire justement des plans ou des schémas de vaisseaux, choses comme ça.
J'ai fait des plans de la base. Je crois que le plan de la base, on le retrouve dans le livre. On voulait être le plus crédible possible à la fois dans ce qui est technique, en fait, et aussi dans les relations des personnages entre eux et la manière dont ils évoluent sur Mars. En fait, ça raconte la première semaine des premiers humains sur Mars. Voilà, et donc la manière dont ils ressentent cette planète sur laquelle ils vont passer plusieurs mois, quoi, et même pour l'un des personnages, rester sur place, quoi. Donc ce qui nous intéressait, c'était de parler de leur psychologie, de leurs sentiments aussi, voilà. Et voilà, si Florence, tu veux nous dire un truc dessus, non? Voilà, et par contre, voilà, oui, tu veux dire un truc? Là je parle d'ailleurs. Et donc, pouvoir point,
qui pour le coup est peut-être moins crédible et moins ancré dans. Enfin, tu te posais moins la question de savoir. Savoir si les gens allaient croire à tous les détails techniques de ton histoire. Aussi quelque chose d'intéressant sur pouvoir point, c'est que ces deux histoires, il y a une histoire de science-fiction et il y a une histoire du monde du travail, en fait, très 20e siècle, quoi.
Ouais. En fait, moi, dans la science-fiction, je suis plus fiction que science. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de nous, en fait, mais dans un cadre de science-fiction, quoi. Donc, ça parle ça parle du voyage d'un stagiaire qui est embauché sur un vaisseau spatial, et on suit sa vie de petit stagiaire sur ce vaisseau qui part de la Terre et qui va jusque dans les lointaines étoiles. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de parler, de tout sauf de... Enfin non, si, ça m'intéressait aussi de parler de science-fiction, mais ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était de parler du monde du travail, de la violence entre les gens, entre les groupes. Je voulais parler aussi de l'ennui qu'on peut ressentir quand on arrive dans un groupe et qu'on n'arrive pas à s'intégrer, il y avait plein de thèmes, et la science-fiction me permettait de les aborder sous un angle, c'est un genre dans lequel moi je me sens familier, quoi. Je me sens à l'aise, quoi.
Oui, parce que c'était un peu ça la question que j'avais posée, qui est sans doute une question bête, mais est-ce que tu te serais senti d'aborder ces thèmes-là si ça n'avait pas été de la science-fiction? Si tu n'avais pas eu ce décalage, quoi, que permet la science-fiction.
Alors, en fait, ça, c'est dû à ce que j'arrive jamais à faire de choix, en fait, quoi. Moi, je voulais faire une histoire qui parle du monde du travail. Ça aurait pu se passer maintenant, de nos jours. Je voulais faire une histoire de science-fiction aussi, mais donc à part, quoi. Et je voulais faire une histoire aussi qui se passe sur un gros bateau, voilà, qui, sur la mer et tout, quoi. Et comme j'arrive jamais à faire de choix, je me suis dit, bah, je vais tout mettre ensemble, quoi. Et en fait, la plupart des choses que je fais, bah, sont dues à ça. Juste que je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas quoi choisir entre ce que je veux faire. Du coup, je mash-up tout et ça donne des, voilà, et ça donne une, et ça donne des choses qui me, dans lesquelles je me sens assez à l'aise parce que c'est un peu bizarre ou ça mélange des choses et voilà. Et,
Oui, et puis du coup, ça te permet d'économiser. Enfin, au lieu de faire 3 livres, de passer 6 ans à faire 3 livres, t'en fais qu'un, voilà.
Et en plus, on va le voir rapidement après. C'est un livre qui t'a pris longtemps à faire en soi, parce que c'est un ouvrage important. Et puis, c'est aussi un livre qui a une histoire assez longue, parce qu'il y a eu. Alors, on s'amusait à mettre avant plusieurs étapes de documentation, parce que voilà, il y a beaucoup de recherches, mais même il y a eu plein d'étapes aussi dans la fabrication du livre. Il y a eu plusieurs versions, une version en ligne, une version pensée autrement. Enfin, donc ça a été quoi comme cheminement? Ça a duré combien de temps ça pour toi d'aboutir vraiment à PowerPoint tel qu'il a été édité?
Bah, j'ai commencé 7 ans avant que le livre sorte. Et dans sa première forme, ça devait être une série de formats 48 pages, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première version, en fait, quoi. Donc c'était vraiment, ça, c'était destiné à être un format court, si possible une série, et on aurait retrouvé le même personnage, quoi, qui évolue de livre en livre. Et puis en fait je me sentais pas du tout à l'aise, en fait, quoi. Déjà, voilà, j'étais parti sur 12 cases par page. C'était chiant, en fait, quoi. Vraiment, enfin, et comme je m'astreignais à 48 pages, tout allait très vite, en fait, quoi. Les scènes étaient expédiées en 3 pages, bam bam bam. Et donc personne n'en a voulu, donc je l'ai présenté quand même, et donc personne ne voulait de ce livre qui c'est vrai avait l'air très chiant, en fait. Et donc ça m'a beaucoup vexé, et je me suis dit, mais ils me font chier tous, quoi. Je vais faire mon livre moi seul. Et du coup j'ai ouvert un blog, donc encore un blog sur lesquels, voilà, donc sur lesquels je faisais tous les 2 ou 3 jours, j'y mettais une demi-page, quoi. Et là, j'improvisais, en fait. J'improvisais sur la trame de ce que j'avais fait pour ma première version, quoi. Et du coup, bah, je m'interdisais rien, quoi. Je brodais comme ça. Je faisais les cases comme elles venaient, quoi. Je faisais une case en haut, puis une deuxième. Oh, puis j'ai plus la place pour... J'ai plus la place pour en faire deux petites. Alors, je vais en faire une grande, ou... voilà. Et du coup, ça m'a vachement libéré, en fait, quoi. Et j'ai produit comme ça pour rien, vraiment, pour moi, quoi. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça a vraiment été libérateur, quoi. Mmh. Et donc c'est avec ça, quand j'en ai eu une quarantaine de pages, que je l'ai reproposé. Et du coup, là, le projet avait complètement changé. J'étais parti sur 200 pages. J'avais aussi mis mon personnage sous un casque. Parce que, voilà, on me revient aussi à cette histoire que j'arrive jamais à faire de choix. Donc, j'arrivais pas à trouver un nom pour mon personnage. Et j'aimais pas sa tronche aussi dans la première version. Donc je l'ai mis sous un casque. Et en fait, on ne sait jamais son nom. En fait, son nom n'est jamais dit dans le livre, quoi. Et à partir du moment où j'ai plus de nom et de visage, là ça m'a vraiment libéré, quoi. Et n'empêche que personne n'a voulu non plus de ce livre de 200 ou 300 pages, quoi. Sauf vous. Donc voilà. Vide Cogagne a été un des seuls éditeurs qui a dit oui. Voilà. Et donc j'ai pu faire mes 200 pages de gens qui sont dans l'espace et qui se droguent et qui baisent et tout. Et...
Donc à partir de là, tu as tout retravaillé en fait encore.
J'ai tout retravaillé encore une fois. Quoi. J'ai même tout redessiné ce que j'avais fait sur le blog pour que ça rentre dans le format, bah, dans ce format-là. Quoi. Voilà. Parce que moi, comme je le faisais pour moi, bah, je faisais un peu au pif. Quoi. Voilà.
Mais du coup, pour revenir sur l'écriture, du coup, tu racontais que t'expliquais que pour la version blog, tu improvisais en te basant plus ou moins sur la trame de la toute première version. Et du coup, à quel moment pour le livre, quand tu t'es dit officiellement je vais faire un livre, est-ce que t'es resté dans cette idée d'improvisation du fil de l'écriture, ou est-ce que petit à petit il y a des choses qui sont posées, ou est-ce que tu t'es même posé pour écrire?
Ouais, non, là, l'improvisation en a pris un coup, quoi, dans la tronche, quoi. Parce que je savais qu'il fallait que je respecte un nombre de pages, que je respecte un format aussi. Donc j'ai demandé le nombre maximum de pages auxquelles j'avais droit, quoi. Donc on m'a dit 200, c'est le max. Ok, bon, bah, je prends le max alors. Et j'ai divisé ces 200 pages en le nombre de chapitres dont j'avais besoin. Donc je savais que dans mon histoire, il devrait se passer des choses clés, quoi. Donc je savais qu'à un moment, il fêterait Noël, donc il y aurait une grosse fête. Il y a un moment où il y aurait une cérémonie aussi d'un passage d'une ligne spatiale. Enfin, bref, quoi, il y avait des grandes scènes. Et je voulais aussi, alors ça c'était un peu dur à faire, il fallait que dans les premiers chapitres on sente qu'il s'ennuie beaucoup, quoi. Donc les premiers chapitres il se passe pas grand chose, c'est juste lui qui s'ennuie et qui s'emmerde un peu, voilà.
Et t'as pas peur de perdre les lecteurs comme ça en commençant par une histoire où il se passe rien?
Si, j'ai eu un peu peur, c'est pour ça que j'ai qu'entre chaque chapitre il y a des pages de flash forward qui racontent ce qui va se passer à la fin du livre. Donc on se rend compte qu'à la fin du livre il va se passer des trucs un peu différents de ce qui se passe au début du livre. Donc voilà, c'était pour maintenir un peu, enfin pour dire ne partez pas déjà, à la fin il y a de la bagarre et tout ça, mais c'est vrai que il faut que les premiers chapitres soient très lents et voilà.
Alors on va avoir un problème nous aussi de format respecté, parce qu'on n'a pas 200 pages aujourd'hui.
Alors ça c'est storyboard. Hop, je fais mes planches, enfin mes crayonnés comme ça.
Voilà. On est mis de trois étapes parce que je trouve ça toujours intéressant effectivement de voir comment tu peux travailler. Donc il y a cette étape storyboard, et ensuite tu nous envoies une planche comme ça, avec différentes étapes. Toi tu travailles comment? C'est de l'ancrage? Tu travailles à la main? Tu travailles c'est un ancrage manuel ça ou c'est numérique?
En fait je dessine avec ce genre de feutre, quoi. Enfin voilà ça. Donc en fait je dessine sans crayonner, je fais encore mes cases sans règles, et du coup je m'impose de pas faire de crayonner, quoi, parce que voilà, parce que le crayonner, enfin je trouve, hein, rend mon trait mou en fait, et je supporte pas de devoir redessiner sur un dessin que j'ai fait déjà, quoi. Donc moi je suis un petit peu feignant, donc je vais pas dessiner deux fois, quoi. Donc je fais un seul dessin. Si c'est moche, bah c'est moche. Si c'est vraiment trop moche, là je mets du blanc et je redessine, quoi, dessus. Si je me plante encore, je remets du blanc, bref. Donc ce qui donne ce trait un peu je sais pas, un peu qui n'est pas parfait, quoi, mais qui me va très bien, quoi.
Il y a quand même une quasi ligne claire très très précise, quoi. Enfin, voilà, pas...
En fait, je m'efforce de pas trop lever mon feutre. Donc quand je fais un personnage, je m'efforce de le faire d'un seul trait, quoi. Voilà, et pas revenir. Voilà. Et donc du coup, il y a un peu une prise de risque que j'aime bien, parce que voilà, il y a le risque de se planter. Et en même temps, c'est pas un grand risque parce que je peux mettre du blanc dessus. Voilà. Donc voilà, j'ai besoin de faire ça, quoi. Et la couleur. Donc la couleur, elle est faite sur l'ordi. Voilà, la couleur est très importante.
Non, on va malheureusement pas rentrer dans les détails. On avait aussi toute une troisième partie sur tous les projets un peu annexes que tu continues à mener. Va falloir qu'on passe très vite parce qu'il va falloir qu'on choisisse en fait. Soit on parle de tout ce que tu fais, soit on parle de ce que tu vas faire, de tes projets aussi à venir. Et vu qu'il nous reste 5 minutes, c'était le plus intéressant.
De ce que je vais faire, ok.
Ouais. Donc on va vous montrer juste pour vous faire envie, comme ça, paf, on avait montré plein d'illustrations, on avait montré plein de croquis, parce que tu fais beaucoup de reportages de croquis sur le terrain.
C'est vraiment super.
Qui est intéressant. Tu travailles pour la presse aussi, là c'est chez Sofilm.
C'est hyper drôle, c'est vachement bien.
Voilà, c'est super aussi. Et puis, ben, c'est juste un petit teasing. Et on va passer, donc. C'est un peu rapide, excusez-nous, c'est un peu expédié. Donc là, c'est le projet. Alors, on est assez content parce que tu nous as envoyé des images qu'en fait tu viens de faire.
Ouais.
En fait, d'habitude, on fait des antipastilles pour parler de bande dessinée. Et là, on a l'impression que tu as fait la bande dessinée pour l'antipastille.
Mmh. Ouais, voilà. C'est vraiment les tout premiers dessins de mon prochain projet. Donc voilà, c'est les dessins des trois personnages principaux. Et donc ça va être un road movie post-apo. Qui se passe en France après on ne sait pas quoi d'ailleurs, après une bombe ou une guerre, bref on ne sait pas, et on suit la deuxième ou troisième génération qui suit ce grand boom. Donc on suit trois ados ou trois jeunes qui partent sur la route, quoi. Et voilà, et donc il y a une fille, il y a un garçon. Et donc je voulais trois personnages pour que les trois marchent bien, bien ensemble. Donc j'ai mis un garçon, une fille, et pour le troisième, bah comme je voulais pas faire de choix entre un garçon et une fille, j'ai fait un personnage, celle-là c'est le roux, qui change de genre en fait un jour sur deux, quoi. Donc un jour c'est un garçon, un jour c'est une fille. Donc voilà, donc et on se rend compte que ça change pas grand chose, que ça change rien en fait. Et juste que ça change le regard que les autres ont sur ce personnage-là. Quoi, voilà. Et donc ça, c'est le... Oui, ensuite, il y a le garçon après. Voilà, bon. Donc voilà, et ça va être... Enfin, moi, je le vois encore comme une grande saga qui va faire 1000 pages, qui va me prendre... voilà. Donc je suis très, très ambitieux.
Alors, est-ce qu'on a le même décalage que sur Pouvoirpoint avec l'idée de parler d'un thème... très contemporain.
C'est un peu ça, ouais. Ouais, je parle de la vie quotidienne, mais dans un milieu complètement flingué, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et c'est de parler des gens en fait, de la vie quotidienne, quoi, des gens, et quel que soit le milieu dans lequel ils sont, en fait, ça change pas grand chose. Les rapports entre les gens sont toujours plus ou moins les mêmes, quoi. Et c'est voilà, et je pense que comme Pouvoirpoint, je vais jouer sur certains décalages entre la vie quotidienne et un environnement très très agressif ou très bizarre, quoi. Voilà. Et j'ai pas de nom. Ah, et j'ai pas encore trouvé de nom pour ces personnages. Et tant que j'ai pas trouvé de nom, je reste encore bloqué, quoi. Donc Les noms des personnages pour moi sont très très importants, et je peux pas comme ça en prendre au pif, quoi. Il faut que les noms aient un sens, quoi. Et il faut encore aussi que je trouve le titre de cette saga, quoi.
Mais l'histoire avance quand même.
L'histoire, j'ai des pages de texte, de petites idées, mais j'ai pas de titre. Et je pense que le jour où j'aurai le titre, là ça va partir tout seul. Et, voilà.
Et t'as l'intention d'en montrer un petit peu, là tout à l'heure on a vu qu'il y a eu plein de façons, notamment les blogs, ou t'as bossé dans des revues aussi, enfin là l'idée c'est quoi, c'est un projet vraiment éditorial, et il n'existera qu'en livre
ou... Non, je vais faire comme pour Pouvoirpoint, je vais le faire sur un blog, de manière complètement libre, et puis voir où ça me mène, quoi. Voilà. Mais pas me contraindre dès le début à un nombre de pages fixe et un format, quoi. Mais il y allait vraiment YOLO, quoi. Vraiment, et c'est que comme ça que j'y arrive le mieux. Voilà.
Okay. Je crois que la sécurité va nous foutre dehors.
est-ce qu'il y a des questions? Bah, tout a été très clair. C'était.
Alors sinon, on vous invite évidemment à aller, si vous voulez rencontrer Erwan et Florence Porcel. Je crois que vous êtes en dédicace dans la foulée, c'est ça ?
Dans la librairie en bas, là.
Oui. Donc pour cet ouvrage Mars Horizon qui est sélectionné cette année aux Utopiales. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer.
Voilà. Merci.